7h30, Agnès Bonfillon, Antoine Cavallero.
Effectivement, l'heure de vous retrouver, Antoine, pour le journal. Bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une, le choc en Alsace, la mort d'une collégienne de 14 ans. Elle a fait un malaise cardiaque hier. Son établissement a été confiné à cause d'une attaque au couteau qui s'est déroulée à proximité. Nous sommes sur place. Faut-il redouter une escalade au Moyen-Orient ? Des explosions ont retenti en Iran cette nuit. Les médias américains assurent qu'il s'agit de la riposte israélienne. Israël qui garde le silence. Dans l'actualité également, l'inquiétude des arboriculteurs après des épisodes de gel cette nuit. Des camions jaunes pour apporter la poste dans les petits villages. Et puis le carton annoncé de Taylor Swift, la superstar américaine affole tous les compteurs.
On le voit et on l'entend, les magistrats, les enseignants sont plutôt dubitatifs aujourd'hui après les premières pistes esquissées par Gabriel Attal pour juguler la violence, l'extrême violence des plus jeunes, notamment des mineurs. Est-ce sur le fond? Est-ce sur la forme? En tout cas, on posera la question à notre invité qui sera donc tout à l'heure Sophie Vénétité. Elle est la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. Et évidemment, on va en parler avec vous au 3210. Que pensez-vous de ces mesures, comme par exemple de responsabiliser les parents en leur confiant des travaux d'intérêt général s'ils sont défaillants, ou alors d'éloigner les mineurs dans des internats lorsqu'ils sont prédélinquants? On vous attend 3210.
La météo à la fin du journal, claire la fameuse France coupée en deux.
Exactement, avec de l'instabilité au nord, ponctuée de quelques pluies vers le quart nord-est. En revanche, plein soleil dans le sud. Ça se radoucit, sauf près des départements situés au nord de la Seine, où ça reste un petit peu frais pour la saison.
Merci Claire.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
L'émotion en Alsace, on l'a appris ce matin, une collégienne de 14 ans est décédée hier à Souffelweyersheim, c'est près de Strasbourg. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque lorsque son collège a été confiné.
Oui, confiné car à proximité, deux écolières ont été légèrement blessées dans une attaque au couteau. Samuel Goldschmidt, on vous retrouve sur place pour RTL, bonjour.
Bonjour.
On l'imagine, hein, c'est tout un quartier qui est sous le choc.
Oui, littéralement d'ailleurs, car c'est dans ce secteur même de Souffelweyersheim que sont concentrés trois établissements scolaires. L'école primaire, dont les deux fillettes ont donc subi des agressions, une école maternelle et le collège des Sept Arpents, où s'est produit le drame dû au confinement qui a été angoissant hier après-midi pour ses élèves.
Quand on est arrivé au collège, ils nous ont dit qu'il fallait aller en classe pour être confiné parce qu'il y avait une alerte intrusion et tout. Du coup, on est resté en classe, on a fermé les volets, fermé la porte à clé. En étant beaucoup plus paniqué surtout, parce que on a appris après que c'était pas un jeu. Au début, on en rigolait, après, on a compris que c'était pas un jeu, quoi. Tout le monde angoissé, larmes aux yeux chez tout le monde. Dehors, quand on était avant de rentrer, on voyait la police, les pompiers, etc. Donc, on savait qu'il se passait quelque chose. Quand on est rentré, ça a été un truc en plus. On savait qu'il y avait quelqu'un de dangereux à côté.
Ça a duré longtemps ?
Deux heures et quart.
Plus de deux heures dans des salles de classe fermées à clé, volets baissés, sans téléphone portable car il faut les éteindre et sans information de l'extérieur. C'est dans ce contexte que l'élève de 4e a fait un grave malaise cardiaque auquel elle n'a pas survécu. Personne n'avait cœur à faire cours ce matin. Les élèves et les profs présents ont pu parler à l'équipe de psychologues et une cellule d'écoute pour les parents, école primaire, collège ou maternelle confondue, est mise en place cet après-midi à la mairie de Souffelweyersheim.
Samuel Goldschmidt dans le Bas-Rhin pour RTL. Comme si Grande-Synthe s'était figée ce matin, une marche blanche pour Philippe. Un millier de personnes se sont rassemblées en hommage à ce jeune homme de 22 ans, passé à tabac en début de semaine sur un parking de cette ville du Nord. Deux adolescents de 14 et 15 ans vont être présentés à un juge. Aujourd'hui, ils sont soupçonnés d'avoir tendu un guet-apens à la victime.
À l'étranger, Antoine, cette question, la riposte israélienne a-t-elle eu lieu ?
Moins d'une semaine après l'attaque iranienne, des explosions ont été entendues cette nuit dans la région d'Isfahan, c'est dans le centre de l'Iran, la région qui abrite des bases militaires et des installations nucléaires. La presse américaine assure qu'il s'agit bien de représailles, mais Israël ne fait toujours aucun commentaire. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
De son côté, Téhéran minimise l'attaque.
Oui, et d'ailleurs le président iranien, Ebrahim Raisi, vient de prononcer un discours sans dire un mot de ces explosions. Et le porte-parole de l'agence iranienne de l'espace a lui déclaré plus tôt dans la matinée qu'il n'y avait eu aucune attaque aérienne sur l'Iran depuis l'extérieur des frontières. Le New York Times, citant des responsables israéliens, parle lui d'une attaque mais menée par des petits drones lancés depuis l'Iran. Des drones détruits par la défense aérienne de Téhéran qui affirme qu'aucun missile n'a touché le sol iranien. Selon l'agence de presse IRNA, il n'y a pas eu de dégâts, mais les médias américains, reprenant les propos d'officiels iraniens, précisent que la base aérienne d'Ispahan a été touchée. En revanche, les installations nucléaires de la région sont intactes. L'information a été confirmée ce matin par l'Agence internationale pour l'énergie atomique.
Et depuis ce matin, Sophie, c'est le monde qui s'inquiète d'une nouvelle escalade.
Oui, l'Union européenne européenne, par la voix de sa présidente, demande aux pays de la région de s'abstenir de toute nouvelle action. Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis en Italie appellent à empêcher une nouvelle escalade. La Russie demande de la retenue et la Chine se dit-elle opposée à toute escalade des tensions et demande à ses ressortissants en Iran de prendre leurs précautions.
Sophie Jousselin du service international de RTL. En Ukraine, des frappes russes cette nuit sur la région de Dnipro, c'est dans le centre-est du pays. Elles ont fait au moins 8 morts. De son côté, Kiev revendique la destruction d'un bombardier russe, ce qui est une première depuis le début du conflit. À l'étranger toujours, le pays le plus peuplé du monde vote. 968 millions d'Indiens se rendent aux urnes. Les élections générales vont durer 6 semaines. Le premier ministre nationaliste Narendra Modi est l'immense favori.
RTL Midi.
Midi 37 sur RTL. Gros coup de froid la nuit dernière. Du gel dans le Limousin, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Midi-Pyrénées.
Moins 4 degrés dans le Lot, moins 3 à Saint-Étienne. Et à cette période, les arboriculteurs s'inquiètent, comme Pierre. Il a son verger à Piégut-Pluviers, c'est dans le nord de la Dordogne. 1200 arbres fruitiers, des cerises, des prunes, des pommes. Il a fait moins 2 cette nuit chez lui. Et les dégâts sont nombreux ce matin.
Étant donné qu'on a eu un printemps avec des températures très très hautes, on a sur certaines espèces entre 1 et 2 mois d'avance. Lorsque comme ça on a des gels à des stades avancés, on a une perte totale de la production de fruits. Par exemple, je récolterai pas de prunes, mes cerisiers c'est quasiment foutu, les abricotiers c'est pareil. Là comme ça, je suis à peu près sûr que les 3/4 de ma production de fruits sera perdue cette année, quoi.
Un arboriculteur contacté par Clément Terra pour RTL. Dans l'actualité également, l'autoroute A13 fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson. Ça dure depuis ce matin 8h et ça va durer encore un moment. On ne sait pas quand l'autoroute pourra rouvrir. La direction des routes d'Île-de-France évoque des problèmes d'infrastructure sur la chaussée.
Un camion jaune sur la place du village, RTL vous le révélait dès ce matin, la Poste lance des bureaux itinérants.
Le tout premier s'installe aujourd'hui à Champeaux-Soux, 99 habitants dans l'Orne. La semaine prochaine, 40 villages auront droit à ce nouveau service, 5 départements concernés au total, l'Orne donc, le Gers, le Jura, la Haute-Marne et la Creuse. L'idée, Armel Lévy, c'est d'amener la Poste dans des communes où les services publics, les commerces ont disparu.
Dans ce camion jaune sur la place du village, vous entrez par le côté pour arriver à un guichet avec un postier ou une postière derrière son ordinateur. Vous pouvez acheter des timbres ou affranchir vos colis. Et dans ce bureau ambulant de 9 mètres carrés, il y a un coin pour vous asseoir et consulter de la documentation. Vous pouvez aussi vous faire aider, être aiguillé pour toutes les démarches administratives. Mais surtout, ne dites pas à Nathalie Collin, la directrice générale adjointe de la Poste, que ces camions ambulants sont là pour compenser la fermeture des bureaux de poste dans les villages.
Pas vraiment, parce qu'en fait, on n'a pas d'obligation, véritablement, c'est quelque chose qu'on fait en plus. 90% de la population doit être à 5 km au maximum ou 20 minutes en voiture d'un point de présence postale. On est très au-delà de ça, on est déjà à 97% de la population, mais là on va toucher des populations, on va dire en ultra proximité à un endroit où il y a très très longtemps qu'il n'y a plus ni service public, ni commerce du tout.
Pendant un an, le temps de l'expérimentation, 13 000 habitants de 40 communes pourront monter dans le camion de la Poste une demi-journée par semaine sur la place de leur ville.
Armel Lévy du service économie de RTL.
Vous pouvez réagir d'ailleurs, parce que c'est quand même une initiative qui vous concerne si vous habitez dans un village isolé. Ces bureaux de poste itinérants, dites-nous ce que vous en pensez, 3210.
La nuit a été courte à Marseille, on parle foot évidemment, la victoire contre le Benfica Lisbonne a été fêtée comme il se doit.
L'OM en demi-finale de Ligue Europe, ce sera contre l'Atalanta Bergame. L'extase des Marseillais qui contraste avec la désillusion des Lillois. Lille éliminée de la Ligue Europe Conférence par Aston Villa, là aussi ça s'est joué au tir au but.
Puis attention, tsunami en vue, le nouvel album de Taylor Swift est sorti cette nuit.
Le 11e album de la mégastar américaine va battre tous les records, c'est ce qu'on nous promet. Ça s'appelle Le Cercle des Poètes Torturés. Et la nouvelle a ravi les Swifties, c'est comme ça qu'on appelle ses fans. C'est en fait un double album, 15 chansons supplémentaires, ça donne ça. Extrait de Fortnite, un duo avec le rappeur Post Malone. Ça fait danser Stéphane Boutsock en studio. Bonjour Stéphane.
Il danse doucement.
Il danse. Ouais, il dandine quoi.
Stéphane, Taylor Swift, c'est un phénomène qui dépasse la musique aujourd'hui.
À 34 ans, Taylor Swift est aujourd'hui l'artiste en effet la plus influente du monde, suivie par 284 millions de personnes sur Instagram et par 95 millions d'autres, ou les mêmes d'ailleurs, sur X, anciennement Twitter. Alors au-delà de ses chansons et de son nouvel album, sa parole pèse aujourd'hui un poids considérable. Joe Biden et le camp démocrate attendent que l'oracle de la pop prenne la parole et leur apporte, ils l'espèrent, son soutien dans la campagne présidentielle contre Donald Trump. Phénomène économique également, la tournée mondiale de Taylor Swift vient de dépasser les 2 milliards de dollars de recettes. Elle est elle-même officiellement devenue milliardaire. La star, on le rappelle, sera en concert en France à partir du mois de mai, d'abord à la Défense Arena pour 4 dates, puis à Lyon en juin avec 2 soirs au Groupama Stadium. Conséquence directe, une étude qui a été révélée ce matin par le site de voyage en ligne Opodo démontre que les recherches des vols sur Lyon a augmenté de 49% et ce vers Paris de 24%, pile aux dates où la chanteuse doit se produire chez nous.
Incroyable.
Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Antoine. La météo, Claire, ça se radoucit dans le sud.
Exactement, donc on peut avoir des températures qui vont avoisiner les 21, voire localement 22-23 degrés près de la Méditerranée. Et puis également près du sud-ouest, là aussi, ça se radoucit. On aura par exemple 20 degrés cet après-midi à Biarritz, 19 degrés à Cognac, 20 degrés à Bordeaux. Donc là où ça restera un petit peu plus frais, même en dessous des normales, ça sera pour les départements situés au nord de la Seine. Surtout près donc des Hauts-de-France où nous aurons seulement 12 degrés par exemple à Lille. Côté ciel, c'est cette fameuse France coupée en deux avec beaucoup de nuages au nord, surtout principalement pour les régions situées au nord de la Loire, avec en prime quelques pluies qui pourront circuler vers le quart nord-est. Attention, elles seront un petit peu plus fréquentes vers la Champagne-Ardenne, au Jura. En revanche, plein soleil au sud. Petit bémol quand même en Méditerranée, toujours avec ce mistral et cette tramontane qui souffle de manière sensible, hein, jusqu'à 60 km/h.
Merci Claire, à tout à l'heure 13h.
Courte pause et dans un instant, on revient sur les mesures esquissées par Gabriel Attal hier pour juguler la violence des plus jeunes qui s'invitent trop souvent à l'école. Qu'en disent les profs ? On sera avec la secrétaire générale adjointe du SNES FSU.
RTL Midi. Agnès Bonfillon.